Mercedes-Benz.
Dis-moi, c'est ton utilitaire électrique égaré là ?
Oui.
Mais alors, ça veut dire que c'est le bon moment ?
Mais oui, c'est le bon moment.
C'est le bon moment !
Oui, bon bah va chez Mercedes-Benz Utilitaire au lieu de crier.
Ah ouais, ok, t'as raison.
Essai, conseils d'experts et solutions de financement. Pendant les moments Be Ready avec les eVito, eSprinter et EQV, Mercedes-Benz met tout en œuvre pour que ceux qui le souhaitent puissent passer à l'électrique. Pendant le confinement, notre réseau vous accueille uniquement sur prise de rendez-vous pour les départements concernés. Mercedes-Benz.
Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneau.
Ça vous concerne, les experts sont là, même le dimanche. Christine Béroux,
bonjour.
Charles Decan
bonjour.
Et Roland Pérez. Coucou. Mon cher Charles, votre sélection programme de la semaine qui vient, c'est un documentaire qui, vous nous dites, va nous rendre nostalgiques.
Bah oui, parce qu'on fête cette année les 20 ans de la télé-réalité. TMC s'est penché, oui déjà, TMC s'est penché sur ce phénomène avec un documentaire en deux parties. La première, elle sera diffusée mercredi à 21h15 et elle s'intéresse à la doyenne du genre, hein, ce qu'on a appelé la télé-réalité d'enfermement, lancée en fanfare en 2001 avec Love Story.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros.
Ça vous rappelle des souvenirs ?
Ça pète un peu l'année du bac.
Alors l'émission de TMC, elle est assez intéressante parce que ce sont les gens qui ont produit, qui ont présenté ou qui ont participé à la télé-réalité qui témoignent. Il y a les productrices Alexia Laroche-Joubert et Angela Laurenté, les papesses de la télé-réalité. Il y a aussi Christophe Beaugrand, Benjamin Castaldi et plusieurs candidats emblématiques de Love Story ou Secret Story.
On y apprend vraiment des choses ?
Alors ça dépend à quel âge, ça dépend quel âge vous aviez à l'époque, hein, et si vous suiviez ou non ces programmes, évidemment. Personnellement, moi, j'étais ado pendant le Loft, donc la carte de la nostalgie joue à fond quand on regarde l'émission. Mais même ceux qui regardaient religieusement pourront découvrir quelques secrets de fabrication, hein, des castings notamment. Et c'est vraiment hyper intéressant de découvrir comment ces gens ont vécu la folie des premières télé-réalités de l'intérieur. Alors, le documentaire, il traite quasi exclusivement de deux émissions, Secret Story et Love Story. Ça fait un peu l'impasse sur la tentative de TF1, Nice People, en 2003.
Ah,
je sais pas si vous vous souvenez.
Ah,
ouais.
Oui,
mais on parle pas du tout des colocataires de M6 ou de Dilemme sur W9. Je vois que Christine est vraiment... Mais bon, il y a déjà tellement de choses à dire sur le sujet qu'il aurait sans doute fallu beaucoup plus de temps pour les évoquer. Il y aura, comme je vous le disais d'ailleurs, une deuxième partie au documentaire. Ce sera pour parler cette fois des concours de chant ou des programmes comme L'île de la Tentation ou La Ferme Célébrité. Celle-ci sera diffusée la semaine suivante, donc le 14 avril à 21h15. La première partie, c'est donc ce mercredi à la même heure sur TMC.
Et en tout cas, si vous voulez continuer à parler de télé-réalité, vous pouvez lire Aurélien Bélanger, qui parle de la télé-réalité dans son dernier roman, et puis Delphine de Vigan, qui effleure le sujet, même si c'est plus sur les influenceurs. Mais elle parle de Benjamin Castaldi, du Love Story, qui présentait le Love Story.
Oui,
elle disait la carrière de l'animateur était aussi phénoménale qu'inattendue. Voilà. Merci Delphine de Vigan, c'est chez Gallimard. Roland, changer de nom de famille n'est pas une chose facile, mais le Conseil d'État vient de rappeler qu'on pouvait le faire pour un motif d'ordre affectif.
Eh oui, c'est extrêmement intéressant. Le Code civil a prévu que le changement de nom de famille ne puisse se faire que dans des cas très exceptionnels. Je vous les rappelle juste. On sait qu'il est immuable normalement. Alors ça peut être parce que le nom est ridicule ou particulièrement inapproprié ou vulgaire, déplacé, comme le nom connard par exemple. C'est un peu compliqué.
J'ai beaucoup d'ex qui s'appellent comme ça.
Ou pour éviter l'extinction d'un nom de famille ancestral. Et à ces situations prévues par la loi, s'est ajouté un nouveau motif de changement, le motif affectif.
Donc il y avait une affaire en cause soumise au Conseil d'État qui a retenu ce nouveau motif qui n'était pas prévu par la loi.
Alors il n'était pas prévu par la loi. D'abord, ça a commencé en 2014. Une première affaire, deux frères qui avaient alors 8 et 11 ans avaient été abandonnés par leur père qui, en se séparant de la maman, n'avait plus jamais donné de nouvelles, n'avait jamais contribué à leur éducation, n'avait jamais payé une quelconque pension alimentaire. Et donc les enfants devenus adultes ont argué de traumatismes physiques et psychologiques et ont demandé à la justice d'être autorisé à changer de nom, alors que le garde des Sceaux de l'époque leur avait refusé ce droit. Résultat, le Conseil d'État a dans cette affaire consacré le changement de nom pour motif affectif.
Et dans l'affaire qui était soumise il y a quelques mois à la même juridiction, quel était le motif affectif retenu pour justement légitimer le changement de nom ?
Alors là, une fois de plus, le garde des Sceaux, décidément, a refusé à un enfant né de père inconnu et qui avait majoritairement été élevé par ses grands-parents maternels d'être autorisé à ne plus porter le nom du conjoint de sa mère qu'on lui avait donné alors qu'il n'avait que 12 ans. L'enfant est devenu majeur, il demandait à porter le nom de sa mère alors que son père d'adoption ne s'était jamais occupé de lui. Il avait même été pendant un temps placé en foyer avant d'être confié de nouveau aux grands-parents. Et là encore, la justice devait considérer la demande de ce jeune garçon comme parfaitement légitime. Et donc, on a fait rentrer le motif affectif au titre des possibilités de changement de nom. Donc, c'est une grande nouvelle.
Une grande avancée pour tous ces enfants traumatisés devenus adultes. Christine !
Oui, moi j'ai demandé à me faire appeler Sa Majesté. Et c'est en cours.
Je m'occupe de la procédure.
Moi, je le fais systématiquement.
Ah, oui, merci.
Allez-y, Majesté.
Alors, merci. J'adore cette date de l'année. Vous savez, on est en... entre le poisson d'avril et Pâques. Donc on dit aux enfants d'inventer des trucs absurdes et de dire poisson d'avril. Et quelques jours après, on leur dit que des cloches et des petits lapins vont venir leur apporter des chocolats. Et ils y croient. Non, moi j'aime vraiment le 1er avril. C'est quand même le seul jour de l'année où les gens ont un esprit critique sur ce que les médias leur disent. Même les complotistes prennent sur eux pour pas trop s'emballer. Et c'est la journée où il ne faut faire confiance à personne, ce qui ne me change pas trop de mon rapport aux hommes. Le problème, c'est qu'il y a plein de mauvais poissons d'avril et j'ai fait la liste. Voilà, déjà les poissons d'avril qui servent à s'auto-valoriser. Les gens qui disent qu'ils ont gagné au loto, qu'ils vont tourner dans un film, ou ceux qui disent qu'ils ont super bien géré la crise sanitaire, ça, ce sont des poissons d'avril qui servent à rien. Voilà, on n'est pas dupes. J'aime pas non plus les poissons d'avril fausse joie. Par exemple, Lego, qui a annoncé jeudi avoir inventé des pièces qui s'éloignent avant qu'on leur marche dessus. J'y ai cru, moi j'étais tellement heureuse, moi qui passe ma vie à marcher sur des Lego, je sais plus si je suis humoriste ou fakir. J'ai pleuré de soulagement et c'était un poisson d'avril. Il y a aussi les deux en même temps, les poissons d'avril fausse joie qui servent à valoriser leurs auteurs. Alors, typiquement, certains youtubeurs qui nous font croire qu'ils arrêtent leur carrière. Arrêtez, c'est cruel. Moi, j'aime pas non plus les poissons d'avril trop intellectuels. Volkswagen, qui a annoncé s'appeler maintenant Volkswagen, pour marquer leur passage à l'électrique. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont plus trouvé ça très marrant quand leur action a chuté de 3 euros jeudi matin. J'aime pas non plus les poissons d'avril frayeurs. Charles en a vécu un.
Ah oui.
Deliveroo lui a fait croire à une facture de 400 euros. Charles, est-ce que tu as réussi à faire preuve d'humour pendant ton arrêt cardiaque?
Pas du tout.
Eh oui. Voilà. Pour moi, un bon poisson d'avril, c'est une situation cocasse à laquelle il est impossible de croire. Par exemple, la maîtresse de ma fille, elle m'en a fait une bonne. Elle m'a fait croire que ma fille avait un problème avec le consentement et qu'elle faisait des câlins aux petits garçons de force. Et c'est marrant parce qu'elle a vraiment rien là dessus. Je disais « Ah, poisson d'avril !» Elle me disait « Non, madame Bérou, c'est très très sérieux. » Ah là là, j'ai ri. Enfin, je vais dire qu'aux Émirats Arabes Unis, faire un poisson d'avril est passible d'un an de prison. Voilà, et pas seulement pour les youtubeurs qui font croire qu'ils arrêtent leur carrière. Donc, utilisons encore et toujours notre droit à la blague et pour la peine, je vais dire à ma fille d'aller chercher des œufs, sauf que je ne vais pas en mettre. Voilà, bon dimanche de Pâques à tous.
C'est vraiment cruel. Ah là là là, bonne Pâques à tous. Merci les experts.
Au revoir, Sa Majesté.
Au revoir.